table. Olivia Jesbert.
Bonjour Ludmila Mickaël.
Bonjour.
Qu'est-ce que jouer signifie pour vous aujourd'hui ?
Ah, aujourd'hui, je pensais que vous alliez me dire qu'est-ce que ça signifiait quand j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'appréhension, on va dire, comme si, parce que je sais ce que ça veut dire. En fait, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'appréhension, j'étais inconsciente. Maintenant, j'ai plus de 50 ans de conscience, donc c'est une passion, ça reste une passion, mais teintée de peur. La peur a augmenté, on va dire, voilà. La peur de je ne sais quoi, la peur de faillir, la peur de ne pas être au niveau, la peur de ses faiblesses, voilà. La peur de ne pas arriver à communiquer, en fait, parce que c'est, voilà, de ne pas avoir de contact avec les gens qui sont dans la salle, c'est peut-être ça. Mais j'ai envie de continuer quand même.
Parce que ça donne du sens à cette idée. C'est un engagement pour vous aujourd'hui, plus qu'une vocation, ce métier de comédienne.
Je pense que c'est devenu une vocation. Avec l'engagement, étrangement, mais je pense pas que j'étais consciente d'une vocation. Je suis arrivée là par hasard, un peu poussée par le vent, mais un bon vent, c'était pas un vent mauvais. Je suis rentrée au conservatoire sans avoir pris de cours. Je suis arrivée là, toutes les portes se sont ouvertes comme si j'étais poussée dans le dos. Mais je n'avais pas de vocation. Et en fait, j'ai réalisé au bout de toutes ces années qu'en fait, si, j'avais une vocation, évidemment.
Mais qui vous a poussée un peu, quand même ?
À la fin de la terminale, spectacle de fin d'année, les caprices de Marianne. Les professeurs de français, vous voyez, les récitations, j'étais bonne en récitation, voilà, mais c'est tout. Et à la fin de ce spectacle, on m'a dit, mais comment ? Faut faire quelque chose, faut prendre des cours. Je me suis inscrite à Nanterre. J'aurais pu rencontrer Cohn-Bendit, finalement, et faire 68. Ça n'a pas été comme ça, et j'étais en philo, et en psycho, et en anglais. Et cette idée, ah oui, pourquoi pas, oui. Et le conservatoire, le mot conservatoire. Alors certes, j'étais dans une famille d'artistes, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui disait, faut faire ceci, faut faire cela, pas du tout. Et je me suis inscrite au conservatoire, au flanc. Parce que j'étais étudiante, j'allais rentrer à Nanterre, et je suis rentrée comme ça.
Et la prise de risque a été plutôt réussie. Qu'est-ce que ça signifie en 67? Quand vous faites votre entrée au français, vous êtes passé par le conservatoire, déjà, vous avez 20 ans. Quand la porte de cette institution s'ouvre à vous, à l'accueil, il y a l'administrateur Maurice Escandre.
10h40, le 9 décembre 1966, place du Théâtre français à Paris. Elles sont arrivées très tôt, en avance sur leur prévu. Maurice Escandre, administrateur de la Comédie française, les attendait pour signer leur contrat.
Prenez mon fauteuil. C'est la seule fois que vous pourrez vous y asseoir. C'est le jour du contrat. Alors vous mettez d'abord vos initiales ici. C'est agréable, hein, contrat concis. C'est merveilleux, surtout à vos âges, toutes les deux. Des bébés. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle carrière dans cette Comédie française qui est, je crois, la plus belle maison de théâtre de France, certainement, et peut-être du monde. Je suis très vaniteux pour mon théâtre. Seulement, il faut faire des sacrifices, hein. Ce n'est pas le boulevard, ça ne sont pas les cachets fabuleux, ce ne sont pas les noms, en gros, au-dessus des théâtres, avec des panneaux lumineux. Non, non, tout ça est beaucoup plus discret, beaucoup plus sévère, mais si passionnant.
Voilà, accueilli sous l'étoile du sacrifice. Il avait vu juste, Maurice Escandre.
Écoutez, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une telle émotion à réentendre sa voix, car c'est lui qui m'a engagée. Je suis sortie en 66, mais il y avait pas de place tout de suite en 66. Donc, on m'a engagée vraiment. Le contrat a commencé 1er janvier 67. Mais Escandre, comme j'avais pas de loge, j'ai commencé en 67 avec Elvire de Donjon, et il m'a donné sa loge. Qui était, je sais pas, c'est comme d'être à Versailles. Alors, l'idée du sacrifice n'était pas encore présente. Moi, j'ai découvert tout au fur et à mesure, je connaissais rien. J'avais pas appris de cours, j'avais pas, à part les 2 ans au conservatoire, je savais pas, j'avais pas les codes, et j'étais toujours un peu ravie de la crèche, très enfantine. Le sacrifice, oui, je sais pas, oui, le sacrifice, je l'ai senti quand il a fallu sacrifier le cinéma, par exemple. Oui, ça, c'est sûr. Dieu soit loué, ça n'est plus le cas maintenant. Mais ma génération, on a été, il fallait partir ou rester, on n'avait absolument pas le choix. Et j'ai décidé de rester. Et j'ai renoncé à certaines choses, peut-être après que j'ai regretté. Et donc, c'était ça. Mais là, l'argent, ça comptait pas tellement pour moi. Et c'est vrai que la notoriété, on n'était pas acteur pour la notoriété, ça n'a aucun sens. Donc, il n'y avait pas de sacrifice, parce qu'il dit, c'est vrai que l'argent, la notoriété, on était dans une troupe, l'idée de la troupe, tous servir, simulette singulis, ça, c'était quand même quelque chose. Pour quelqu'un d'un peu idéaliste et romantique comme j'étais, en fait, c'était plutôt beau. Le sacrifice, oui. Après, aujourd'hui, je peux me dire, oui, il y a eu des sacrifices.
Qui étaient-ce, vos camarades de troupe, à ce moment-là?
Alors, quand je suis rentrée, il n'y en avait pas beaucoup, parce que, en fait, ma génération, on va dire, comme j'étais rentrée très tôt au conservatoire à 17 ans, j'étais seule avec Tania Torrance, qui a signé le contrat le même jour. Et sinon, ils étaient tous âgés. Et toute ma génération est arrivée après 67, c'est-à-dire en 68 avec Dux. Tout d'un coup, je me suis dit, ah, bonjour, ils sont arrivés, c'est-à-dire Yégel, Boutet, Salvia, Huster, Adjani, Dussoli, etc. Mais pendant les deux premières années, je me suis sentie assez seule. Parce que j'ai connu un monde très hiérarchisé, mais qui en même temps, ces aînés-là m'ont accueilli. Je commence par Escande, puisqu'il m'a donné sa loge pendant un an. Mais les autres, ça pouvait être Annie Ducot, Hirsch, un des plus... Enfin, voilà. Je pense à Pia, Micheline Boudet, Claude Winter, Denise Jean. C'était mes aînés. Et ils ont été extrêmement gentils avec moi. Geneviève Cazil. Mais ça peut pas dire que c'était mes camarades. Je veux dire, on prenait pas tout à fait le même ascenseur. J'étais très timide. Et c'est après que j'ai eu des camarades. Tous les camarades avec qui j'ai joué, Beaulieu, Boutet, plus tard, Patrice Kerbrat, Michel Aumont, etc. Mais beaucoup d'amis, beaucoup d'amitiés se tissent. Mais au démarrage, j'avais aucun ami. J'étais là, tremblante. Tania était dans son coin. En plus, les loges, on est séparés. Si on joue un spectacle, on n'est pas forcément au même étage. Donc, on fait des kilomètres pour aller s'embrasser. Et puis, voilà, c'était des femmes parfumées, avec des grands talons, avec des chapeaux. Plus tard, une bonne amie, enfin entre guillemets, m'avait dit, oh, tu sais, on est très choqués parce que tu répètes en pantalon. Oh! J'ai dit, ah bon? C'est-à-dire, j'avais l'arrêt au milieu, j'étais plutôt plus proche du Swinging London, moi, que d'être à la Comédie Française. Donc, cette sorte de choc a fait que j'ai mis du temps à m'adapter. Et heureusement, il y a eu tous mes copains qui sont arrivés, qui étaient comme moi, mais ils sont arrivés un peu plus tard.
Et heureusement, il y a eu très vite aussi, peut-être, des grands rôles qui vous ont donné envie de rester. Vous évoquiez Elvire dans Don Juan de Molière, premier rôle que vous avez à la Comédie Française, mise en scène par Antoine Bourseiller. Et tout de suite, la reconnaissance avec un prix Gérard Philippe.
Oui.
Ça, c'était un grand rôle de femme pour vous, celui d'Elvire, un grand rôle de femme trahie, amoureuse.
C'était la chose, c'est que j'ai eu ce rôle sur audition. J'ai donc été engagée et Antoine Bourseiller cherchait une Elvire. Et donc j'ai passé une audition. N'importe comment, je dois dire. Parce que Elvire est sans doute le rôle le plus difficile que j'ai eu à jouer de toute ma carrière. Je pense que toutes les actrices qui se sont approchées d'Elvire le diront. C'est un rôle très bizarrement écrit. Et il y a une première scène, une deuxième scène et entre-temps il y a une heure et demie d'arrêt. Oui, une femme amoureuse, mais surtout dans une mise en scène qui a fait grand bruit, qui était sifflée. Où on disait on assassine Molière, parce que les costumes étaient contemporains, les décors également. Donc j'ai démarré dans une grande violence dans la salle. C'était d'ailleurs finalement ma chance. C'est-à-dire que j'ai démarré dans quelque chose de pas du tout Comédie Française, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. C'était assez moderne, voilà.
Est-ce que c'est pas ça le propre d'un rôle, finalement, que le texte n'est jamais figé, que les metteurs en scène peuvent faire évoluer un rôle, et les comédiens aussi le sublimer, lui insuffler une part d'eux-mêmes, une vie qu'on ne prêterait pas à ce rôle à la première lecture?
Absolument, et je pense que c'est ça la force des grands classiques, c'est que là, moi, actuellement, je me redis en permanence Molière, par exemple, pas forcément ce que j'ai joué moi, mais le Misanthrope ou Tartuffe. On se dit, mais c'est pas possible, la modernité, l'intelligence et la chance. Mais ça m'est arrivé quelques fois, ce serait de commencer par exemple de jouer Elvire à 19 ans et de le reprendre à 25 ans. Et en tout cas, on sait qu'à chaque fois qu'on joue un rôle, et c'était la chance de la Comédie Française, c'est qu'on reprend la saison, on peut garder un rôle sur plusieurs années, on redécouvre aussi. Soi-même, ça a décanté et on approfondit et on s'est dit, mais ce qui est le point commun, c'est que c'est éternel, que c'est nous, au 17e, c'est les mêmes affres, c'est l'amour, c'est la trahison, l'espoir, etc., etc. Et c'est une école de vie aussi incroyable d'avoir la chance de visiter ces textes, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître.
Est-ce qu'on peut dire que trois auteurs, trois dramaturges ont particulièrement compté dans votre vie et parcours de comédienne? Shakespeare avec Lady Anne dans Richard III et Viola dans La Nuit des Rois, Racine avec Phèdre puis Bérénice, Claudel enfin avec Le Partage du Midi, Le Pain dur, chacun à sa manière.
Je pense que oui, c'est vrai que Claudel évidemment, en plus après ma sortie du français j'ai fait Le Soulier de Satin avec Antoine Vitesse. Cette aventure, Claudel, il y a une, je ne sais pas, une familiarité avec cette langue. Racine, bien sûr, je pense que c'est beaucoup plus que Corneille, puisque j'ai joué aussi Corneille. Et Shakespeare, oui, Shakespeare, sauf que Shakespeare, c'est une traduction, et que donc, on dépend aussi de la qualité de la traduction, et que quand on voit les Anglais, ce qui a été mon cas, parce que j'ai joué un an à Stratford, le jouer dans la langue originale, on pense qu'on n'y arrivera jamais. Il y a une sorte d'accent, enfin là, il n'y a pas une sorte, il y a un accent tonique en anglais qui fait que nous, il nous manque quelque chose, et qu'on est obligé de le remplacer par une énergie physique. Mais Shakespeare, c'est le maître. Voilà, pour les Anglais, Shakespeare, c'est leur maître. Nous, c'est Molière. Quand on travaille sur Goldoni, Strehler, pour lui, c'est Goldoni. Mais je pense que Racine et Claudel et Shakespeare pour la profondeur de l'incroyable modernité, c'est sûr. Mais bon. C'est incroyable. Vous savez, ça m'émeut beaucoup parce que Eric Ruff m'a proposé de faire cette rétrospective, voilà. Et je déteste mettre le rétroviseur. Et en fait, ça m'oblige. À la fois, ça m'émeut, ça m'angoisse, et en même temps, je suis heureuse de pouvoir rendre hommage à ces années passées aux Français. Pas d'une façon servile, parce que la Comédie Française, parce que c'est réellement comme avoir reçu un enseignement d'un maître. Oui, c'est que moi, j'ai rentré enfant, presque, très enfantine, et je suis sortie un peu adulte grâce à eux, grâce au texte, grâce à tous ces gens, sous cette réunion d'énergie et d'amour autour du théâtre, quand même. Oui.
1986, Ludmila Mickaël, vous êtes Bérénice dans une mise en scène de Klaus Michael Gruber, avec lequel vous dites au revoir à la Comédie Française.
Ces festons où nos noms enlacés l'un dans l'autre, à mes tristes regards viennent partout s'offrir, sont autant d'imposteurs que je ne puis souffrir. Allons, Félix.
Ciel, que vous êtes injuste.
Retournez vers ce Sénat auguste qui vient vous applaudir de votre cruauté. Eh bien, avec plaisir l'avez-vous écouté. Êtes-vous pleinement content de votre gloire? Avez-vous bien promis d'oublier ma mémoire? Mais ce n'est pas assez, expier vos amours. Avez-vous bien promis de me haïr toujours?
Non, je n'ai rien promis.
Vous vous cachez sous la table de la grande table, vous n'aimez pas vous réécouter?
Là, c'est terrible. Là, ça valait la peine de le reprendre, je pense. L'idée était bonne, mais on peut faire beaucoup mieux. Surtout en suivant, finalement, ce que disait Klaus, c'est-à-dire cœur saignant et parole froide. Là, je trouve que la parole n'est pas assez froide, il y a trop de lyrisme. Je pense que on pourrait gagner à être plus simple, car en fait, c'est ça qu'on cherche. Tout le long de ces années de travail théâtral, c'est se défaire et être dans la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais bon, merci, j'avais jamais réécouté, donc c'est bien.
Mais on est en 86.
Donc j'apprends, ouais. Oui.
C'était les adieux de la reine. Comme Bérénice, vous avez souffert, comme elle a pu souffrir de l'éloignement de Titus, vous avez souffert de cet éloignement du français par la suite.
Oui, c'était si difficile que je ne pouvais même pas repasser par la place Colette. Pendant des années, je n'ai vu aucun spectacle aux Français. Pourtant, j'avais choisi de partir. J'imagine que quand on est remercié, ça doit être atroce. Moi, c'est un choix. J'ai donné ma démission, je suis partie. Une année où je jouais à la fois Célimène et Bérénice, où j'avais plein de projets, donc personne ne comprenait très bien mon choix. Et moi, je ne regrette pas ce choix. J'étais obligée de partir pour connaître autre chose. Mais en même temps, c'était. Je faisais des détours. Là, j'y retourne depuis déjà pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Et j'y retourne avec bonheur et sans, avec émotion, mais pas trop de souffrance.
Bérénice, de l'essence du théâtre, comme on dit de l'essence de Rose, ça c'est ce qu'on disait Jean-Louis Barrault, avec cette mise en scène de Gruber, qu'on comparait à un sculpteur du silence et du rien aussi, dans sa manière d'interpréter aussi ce texte et de le mettre en scène. C'était un grand directeur d'acteur.
C'était un maître, au-delà d'un directeur d'acteur, c'était comme un médium, c'est-à-dire il vous croisait à la première seconde. Je vais vous raconter comment j'ai été engagée pour Bérénice. En fait, cette année-là, tout le monde s'agitait, disait « Oh là là, il va y avoir Bérénice ». Et ça rentrait par une oreille, sortait de l'autre. Puis un jour, on m'a appelé, on m'a dit « Finalement, il repart pour Berlin, mais il veut vous voir ». Je fais « Ah bon ?» Mais j'y pensais pas. Et donc, on a eu rendez-vous dans un café, très obscur, à 11h du matin. Il m'a regardé, j'ai bredouillé deux mots. On s'est rien dit, du tout. Du tout. Il m'a rien demandé, je ne lui ai rien demandé. C'était dans un silence total. Je suis ressortie de là, j'ai dit bon, c'est pas grave. Et en fait, il a téléphoné en disant, il faut qu'elle joue Bérénice. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il sentait et comprenait la personne dans le silence. Et donc, à partir de là, vous guidait par des petites choses, par des petites touches. Comme jamais ça m'est arrivé, je pense qu'il était unique. J'ai rencontré des grands directeurs d'acteurs. Je peux pas dire que ce soit un directeur d'acteurs. Je pense que c'est comme un accoucheur, comme un homme bienveillant, comme un homme aimant, et qui va regarder la personne en face au mieux de ce qu'elle peut donner. Et quand ça n'allait pas, par exemple, s'il écoutait ce passage qu'on vient de dire, d'écouter là, il dirait non. Il pouvait vous dire juste non. Mais aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi il dit. Donc en fait, c'est non ou oui, ou sans le sable entre des doigts de pied, elle connaît les étoiles, il y a une petite brise. Chut, souvent ils disaient chut. Le chut, c'est pas pour parler plus bas, c'est pour aller à l'essentiel, pour, voilà. Par exemple, sur les hélas, je pense que c'est une des pièces de Racine où il y a le plus de hélas. Il disait, dites hélas comme le souffle sur une blessure. C'est extraordinaire. Une petite blessure comme ça, sur la peau, et vous soufflez dessus. Je vous donne des exemples, mais c'était une pluie d'exemples. Et ça nous suffisait, donc c'était difficile parce qu'on n'était pas habitué. C'est pas cartésien, c'était poétique, mais surtout visionnaire. Enfin, je pense qu'il était visionnaire. Il voyait à travers.
Et il fallait pas se perdre au milieu de tout cela.
Non, non, c'est vrai. Mais bon, cette rencontre est arrivée, j'avais déjà 20 ans de plus. Et peut-être que si j'avais été plus jeune, ça aurait été trop difficile.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Molière de la meilleure actrice en 92, Ludmila Michael, ça c'est l'après-français pour votre interprétation dans Célimène et le cardinal de Jacques Rampal. On y retourne.
Monseigneur, j'ai péché.
Non, je m'en doute. Mais encore, quel péché?
Des mortels, des véniels.
Mais commençons donc par les péchés mortels.
Hier, j'ai tué un rat.
Vous vous moquez?
Non pas, je l'ai fait méchamment.
Mais bon débarras, ce n'est pas un péché.
Mais si, c'est un péché quand je vous aurais dit comment je l'ai tué.
Célimène, comment est-ce qu'elle a évolué?
Je trouve que son évolution est plausible. Et Ludmila est enchantée. Elle trouve que c'est une réhabilitation du personnage qui est souvent vu de façon très misogyne. C'est la coquette, c'est la femme volage. En fait, Célimène est condamnée à faire des grimaces. Sa seule arme, ce sont ses charmes. Et Célimène, à la fin de la pièce de Molière, est rejetée par toute la cour. Moi, je trouve que Célimène est un personnage à qui on n'a pas grand-chose à reprocher. Finalement, elle dit oui à Alceste, à un moment donné. Clairement, elle dit oui à Alceste, mais à ce moment-là, lui trouve le moyen de lui dire « Oui, mais alors, il faudra me suivre dans un désert ». Célimène lui dit, bon, là, je trouve que vous poussez un peu. Moi, je veux bien vous aimer, mais je n'ai pas envie d'aller même m'exiler. Et bon, à ce moment-là, lui, il le prend de très haut, en disant, oui, vous ne m'aimez pas, vous, etc. Bon. Donc, je pensais qu'il était important que l'on rende un peu justice à cette femme, cette mal-aimée, qui finalement dans la pièce de Molière, me paraît la plus saine, enfin le plus sain des personnages.
Il y a beaucoup de beaux rôles de femmes au théâtre, peut-être même plus qu'au cinéma, mais il y a aussi des rôles de femmes, des mal-aimées, comme le dit Jacques Rampal, sans les adapter au goût de l'époque. Est-ce qu'il y a plusieurs personnages, figures féminines comme cela au théâtre que vous avez eu envie de réhabiliter?
Bah, Célimène en est une, parce qu'en plus j'ai joué Célimène de Molière, moi, dans la mise en scène magnifique de Jean-Pierre Vincent avec mon Michel Aumont, et ça a été une souffrance de chaque seconde de répétition, de chaque minute de représentation, je n'y suis pas arrivée, parce que je pense intrinsèquement, peut-être que soi-même on pense que c'est les mal aimés, donc on n'y arrive pas, enfin bon, enfin en tout cas moi ça n'a, donc c'est arrivé comme un cadeau, des personnages de mal aimés, je ne sais pas, Phèdre, j'ai aussi eu la chance de jouer Phèdre, mais tellement mal, au Festival du Marais, dans l'administration de Dux, on devait le reprendre à la rentrée à Richelieu, et j'ai dit, je vous en supplie, monsieur l'administrateur, je ne peux pas reprendre Phèdre. Parce que je pense qu'aussi, elle porte en elle, ce personnage est maudit, et surtout, il y a des, on parle d'Elvire, c'est-à-dire qu'il y a ces grands rôles, quand on est jeune acteur, on dit, ah, oh, je rêve de jouer Elvire, je rêve de jouer Célimène, je rêve de jouer Phèdre, mais ce sont des rôles, on n'arrive pas à se défaire de quelque chose, je ne sais pas, vous savez, il y a ça dans la pièce écossaise, je dis même pas son nom, de Shakespeare. C'est comme une sorte de malédiction, où soi-même on a une sorte de jugement. Et moi, par exemple, Phèdre, c'est peut-être le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir réussi à la rejouer pour arriver à peut-être moi, à l'aimer mieux, à me défaire des préjugés que vous savez, parce que ça colle à la peau. C'est la coquette, hein. Phèdre, finalement, Phèdre, on parle de Bérénice, mais je pense que Bérénice, de toute manière, Bérénice est aimée, quelle que soit la mise en scène, l'actrice qui le joue. C'est un cadeau absolu. Et puis, il y a des personnages, il faut lutter. Alors oui, peut-être Phèdre, j'aimerais bien, là. Mais sinon, je ne sais pas, non. Personne ne me vient. J'ai joué Greta Garbo récemment. Pardon, ça n'a rien à voir. Mais Greta Garbo, qui eût cru qu'on me proposerait quelque chose comme ça. Ben finalement, je me suis aperçue qu'elle était assez mal aimée et mal connue. Et ce qui m'a finalement passionnée, c'est de l'aimer moi suffisamment et de la, non pas la réhabiliter, mais peut-être qu'on la regarde autrement, oui.
Mais c'était un miroir inversé, ce rôle de Greta Garbo face à Nils Herstrup, en Winston Churchill, oui, dans cette pièce Scorpios au loin. Oui. Un miroir inversé pour vous. Vous ne vous êtes jamais senti la mal-aimée de cette troupe du Français, puis de de cette scène théâtrale française.
Non, jamais. 20 ans de Français, ce que j'ai pu sentir, c'est de ne pas, quand j'en suis partie et quand j'ai décidé de temps en temps de m'arrêter de faire du théâtre, ce qui m'est arrivé, j'ai fait des gros arrêts, plus tard, après, de 4-5 ans, que personne ne comprenne. Oui. Cette incompréhension qu'un acteur puisse ne plus s'exposer et qu'il a le droit de le faire. Et ça, Garbo, elle a fait ça, et c'est que toujours, on lui en a toujours voulu qu'à 40 ans, c'est, je pense que, peut-être, oui. Je vous dis pas mal aimée, mais incomprise, oui.
Oui. Le Français, cette maison, c'est un tourbillon pour tous les comédiens qui évoluent. On passe d'un rôle à l'autre en quelques jours, en quelques semaines seulement. Parfois, on joue et on répète une autre pièce en même temps. On se demande comment vos corps, vos esprits gèrent aussi toutes ces transformations. Je voulais qu'on écoute quand même à ce propos les mots d'Antoine Vitez. Vitez, avec qui vous avez joué dans le Partage du Midi, puis dans le Soulier de Satin. Ça, c'était à Avignon en 97. Ça, c'est un spectacle qui joue sur l'endurance de l'acteur. C'est un rôle unique. Plus de 12 heures, écoutez Antoine Vitez.
Je dirais que s'il n'y avait pas de doute, il n'y aurait pas de foi. S'il n'y avait pas de désespoir, il n'y aurait pas d'espoir. Et ce qui se passe dans le Soulier de Satin, c'est que beaucoup de personnages qui ne sont pas le personnage principal de Rodrigue, dont on peut penser qu'il est l'incarnation, d'une certaine façon, du poète, certains personnages portent aussi la parole du poète. Certains personnages le représentent aussi. Autrement dit, que certains personnages qui doutent, qui nient même Dieu, représentent aussi des moments d'angoisse du poète. Le sujet de la pièce, c'est l'homme. La femme apparaît un peu trop comme le signe du Christ, pour que ce soit vraiment conforme à ce que dit la religion catholique. La femme apparaît incontestablement, ne serait-ce que dans son langage. Le personnage disait dans Partage de Midi, ensuite le personnage de Prouèse dans le Soulier de Satin, c'est-à-dire la même femme, il s'agit de la même femme, historiquement, réellement de la même femme, apparaît réellement comme le signe du Christ, comme la porte par laquelle il faut passer.
La femme chez Claudel, j'ai dit 97, pardon, c'était 87, Ludmila Michaël, avec cette idée de transcendance aussi, et cette idée aussi de communion qu'on peut avoir sur scène. Donc à la fois la femme par qui devient la porte d'entrée, et cette répercussion que ça peut avoir avec le public, avec lequel on peut aussi entrer.
Mais c'est merveilleux d'entendre Antoine, il nous manque quand même, je ne sais pas qui peut parler comme ça, enfin c'est un homme que j'ai absolument adoré, qui était devenu un ami, et quand on répétait justement le soulier de satin, qu'on disait « Oh non Antoine, pas ça, qu'est-ce que tu nous fais faire ?» Il disait « Homme de peu de foi », voilà. Et en fait, c'est vrai, de temps en temps on sortait de là, et même des répétitions avec Kerbrat, après partage de midi, on se retrouvait rue Saint-Honoré, aller manger des gâteaux, on disait bon, « C'est pas possible, on n'y arrivera jamais ». Effectivement, la femme, là, chez Claudel, enfin, pour Antoine, c'est la femme ordinaire et extraordinaire. C'est-à-dire, c'est effectivement aussi en même temps la femme, la Rosavetch, il y a des lettres, il y a un recueil de lettres de Rosavetch qui est sorti récemment, et où effectivement on s'aperçoit qu'on se dit, mon Dieu, il a idolâtré une femme qui tout d'un coup parle un peu de choses très banales, un peu petite bonne femme, et en même temps, l'amour va, vous fait toucher les étoiles et Dieu, c'est-à-dire que c'est l'amour qu'on peut donner ou éprouver pour quelqu'un qui va vous révéler à l'amour avec un grand A. Et c'est vrai que le soulier de satin, c'est une chose unique, enfin surtout à Avignon, évidemment. On commençait au jour, on finissait au jour, et comme disait mon ami Didier Sandre, on est inconsolé, parce que même si les gens applaudissaient pendant 20 minutes debout ou plus, on rentrait à l'hôtel et dit de toute façon, on sera inconsolable et inconsolé, même s'ils applaudissaient. C'est quelque chose qui est ce qu'on laisse là dans ces aventures-là. Et bon, mais en même temps, c'est un cadeau magnifique.
Merci beaucoup à vous.
Merci. Merci.